vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-moi, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, messieurs.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans nos petits coins, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour, vous êtes bien dans l'actualité des luttes, du lundi au vendredi, de midi et demi à 13h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et aujourd'hui, dans cette émission du 26 janvier 2026, nous revenons sur la situation en Iran et au Rojava, en vous diffusant dans une première partie d'émission une partie des prises de parole qui ont été réalisées le samedi 17 janvier 2026 dernier sur la place du Panthéon, lors du rassemblement en solidarité à la résistance du peuple iranien, prise de parole que nous avons contextualisée grâce à un sujet réalisé par Blast, que vous entendrez en partie lors de la diffusion de ce montage. Dans une deuxième partie d'émission, nous vous diffuserons deux reportages réalisés lors des rassemblements qui, eux, ont eu lieu la semaine dernière en solidarité avec le Rojava. On vous laisse écouter la première partie d'émission et on vient ensuite dans l'actualité des luttes.
Bonjour, Leila Hossein-Zadeh qui est une Iranienne qui nous vient très récemment d'Iran, qui a pris part au mouvement étudiant et qui évidemment était en prison politique, ça va de soi, puisque il n'y a pas de liberté politique en Iran.
امروز در حال اینجا جمع شده‌ایم که رژیم جمهوری اسلامی علیه معترضان مرتکب جنایت علیه بشریت شده. حمله به بیمارستان‌ها برای کشتن مجروحان. برگبار بستن آبران تیر خلاص زدن در سطحی وسیع به مجروحان نسیم. همه مصادیق قتل عامیست که با ادبیات حقوق بین الملل تنها میتواند ذیل جنایت علیه بشریت دام بگیرد. همزمان رژیم اینترنت را قطع کرده و مردم ایران را در انزوا و نوعی زندان همگانی محاصره کرده. در این شرایط که مردم ما نیازمند همیاری و همدلی بین المللی هستند، بیش از همیشه تنها ماندند. ترامپ که از آن سوی دنیا برای معترضان ایرانی پیام حمایت میفرستاد و کشتارشان را برای رژیم ایران با اسم رمز مداخله خارجی آسان میکرد، حالا کشته شدگان را هم صدا با رژیم ایران. ترامپ که از آن سوی دنیا برای معترضان ایرانی پیام حمایت میفرستاد و کشتارشان را برای رژیم ایران با اسم رمز مداخله خارجی آسان میکرد، حالا کشته شدگان را هم صدا با رژیم ایران به کار مسلحانه متهم میکند و از خامنه ای قاتل و جنایتکار به دلیل اینکه بیشتر از این چند هزار نکشته تشکر می کند.
Aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici alors que la République, le régime de la République islamique d'Iran a commis des crimes contre l'humanité, contre les manifestantes et les manifestants, l'attaque des hôpitaux pour y tuer les blessés, le mitraillage des passantes et des passants, l'exécution systématique de blessés par tir de grâce. Tout cela constitue un massacre qui, dans le langage du droit international, ne peut être qualifié que de crime contre l'humanité. Dans le même temps, le régime a coupé Internet, enfermant la population iranienne dans l'isolement et dans une sorte de prison à ciel ouvert. Alors que notre peuple a plus que jamais besoin de solidarité et de soutien international, il se retrouve plus seul que jamais. Trump, qui a envoyé autrefois depuis l'autre bout du monde des messages de soutien aux manifestants iraniens, facilitant ainsi leur massacre par le régime sous prétexte de l'ingérence étrangère, accuse aujourd'hui les victimes, encore avec le régime iranien, d'actions armées, et va jusqu'à remercier Khamenei, cet assassin, d'avoir limité les tueries à quelques milliers de personnes. De l'autre côté, une opposition liée à Israël associe les protestataires à cet État, donnant un prétexte de plus au régime pour les réprimer, les massacrer en les qualifiant d'agents de l'ennemi. Le fils de l'ancien Shah ne fait d'autre chose que de semer la discorde dans le mouvement protestataire. Les forces progressistes internationales observent cette catastrophe, le massacre et l'isolement extrême d'un peuple à bout de souffle au nom de l'anti-impérialisme. Garde le silence face à tous ces crimes. Pourtant, dans leur politique économique, les États impérialistes et le régime iranien relèvent d'une même logique qui, à chaque crise, marchande nos vies de ressources. Malheur au monde dans lequel nous vivons. Jusqu'à récemment, j'ai été témoin direct de luttes quotidiennes en Iran. Et je vous le dis, je peux en témoigner, confronté aux politiques les plus brutales du régime, libéralisation sauvage des prix, retrait total de l'État des services publics, crise de l'emploi et du logement, crise de l'eau et de l'énergie, répression permanente et violente, les Iraniens et les Iraniens ont perdu toute capacité de survie. Ils ne peuvent plus supporter cette situation, ils ne veulent pas de la République islamique, les mains nues, à bout de souffle, ils et elles descendent dans les rues pour être libres ou mourir. Confrontés au pire massacre, au bombardement et à la propagande impérialiste, écrasés par la pression économique, ils et elles tiennent toujours debout. Menés par les femmes et par tous les groupes opprimés, ils et elles luttent pour la vie, pour la liberté et font entendre l'un des slogans les plus progressistes de notre époque. Femmes, vie, liberté. Aujourd'hui, si quelqu'un veut se montrer solidaire de notre peuple, la première des choses à faire est de demander à tous les acteurs économiques, à toutes les entreprises, de rétablir l'accès à Internet, de briser l'isolement extrême et de faire circuler les images et la voix du peuple d'Iran en lutte. Demain, il sera trop tard. À vous toutes et tous, éprises de liberté à travers le monde, aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de votre solidarité.
Les manifestations ont lieu depuis le 28 décembre 2025 en Iran. Ce 8 janvier, la mobilisation a été massive, notamment dans les grandes villes.
Pour la première fois depuis le début du mouvement, ce document amateur apporte la preuve que les manifestations en Iran sont extrêmement meurtrières.
Il y a un blackout internet qui passe sur tout le pays. «
qu'on a des formes de savoir-faire, des formes d'organisation, des slogans qui, d'une révolte à l'autre, depuis une décennie désormais, marquent la même volonté de renversement du pouvoir face à des élites sécuritaires extrêmement organisées.
Protecteurs de la République islamique d'Iran, les gardiens de la révolution sont le bras armé du guide suprême.
Aujourd'hui, on a une organisation qui a des branches de renseignement, des branches militaires, des branches de police, tout un réseau économique extrêmement puissant. Je m'appelle Shorama Karemi, je suis anthropologue au CNRS. Alors, il y a environ 15 jours, les révoltes ont commencé comme une contestation qui est partie du bazar, c'est-à-dire des acteurs économiques qui s'indignaient d'une inflation encore plus grande en Iran. Et donc, ce n'était pas uniquement des révoltes contre la vie chère, par exemple, mais surtout des révoltes contre les choix économiques de la République islamique qui, encore une fois, se faisaient au détriment de la population, de la société. Très vite, les slogans qui ont été chantés dès les premiers jours étaient ceux qui apparaissent toujours dans les manifestations depuis 2017 maintenant et qui sont « mort au dictateur », « Abar Khamenei », donc une volonté de changement de pouvoir, une opposition frontale avec la République islamique. Jeudi dernier, nous étions le 8 janvier, et ce qui s'est passé, c'est que les gens sont descendus massivement dans la rue. Et les révoltes ont pris une ampleur en termes de nombre de personnes présentes en même temps dans la rue, une ampleur qui n'était pas connue jusque-là, dans les petites villes comme dans les grandes villes. À partir de là, le gouvernement iranien a coupé les communications Internet. Donc il y a un blackout Internet qui passe sur tout le pays. Les gens ne peuvent pas s'appeler de portable à portable non plus. On ne peut pas rentrer en communication ni par le téléphone portable ni par les réseaux Internet avec nos proches en Iran. Il y avait déjà eu un précédent en 2019. L'État iranien avait coupé le pays du reste du monde et avait massacré les opposants qui, à l'époque, déjà demandaient la fin du régime. Il y avait eu plusieurs centaines de morts, voire 1500 morts, comme le disait l'agence Reuters. Aujourd'hui, les images qui ont réussi à filtrer grâce aux maigres connexions Starlink qui existent, mais qui sont brouillées par le pouvoir. Donc même ça, c'est ça ne suffit pas à établir la communication. Et les associations de défense des droits de l'homme parlent de au moins 2000 personnes qui ont été tuées. En tout cas, moi, c'est les chiffres que j'ai lus de la part d'associations qui sont comme la Fondation Narges Mohammadi, Iran Human Rights, qui sont des associations qui sont considérées comme étant sérieuses. Les chiffres, on craint que les chiffres soient bien plus grands que 2000 tués, tout ça en deux jours. Les discours des gouvernants de la République islamique laissent craindre qu'on aille vers une escalade de la répression.
Et depuis le 28 décembre, c'est tout un peuple qui se soulève, un mouvement révolutionnaire alimenté par tous les précédents, des femmes, des hommes, des jeunes, toutes les classes sociales, toutes les minorités, une seule voix. La réponse du régime islamique est génocidaire. Nous n'avions jamais connu un massacre aussi sanglant. Face à cela, le peuple iranien résiste à main nue face à une horde d'hommes armés jusqu'aux dents. Des héroïnes, des héros prêts à donner leur vie pour la liberté. Certains veulent nous faire croire qu'il s'agit d'une guerre, que bombarder serait une solution, que Donald Trump serait un recours. Ne soyons pas dupes, les bombardements n'ont jamais apporté la démocratie. Et ceux qui ne respectent pas les droits humains chez eux ne se battent pas pour la liberté ailleurs. Nous sommes face à une révolution menée par des êtres humains qui appellent à l'aide. Ils appellent ce qu'il reste de notre humanité à se tenir debout et à faire entendre leur volonté, faire tomber ce régime islamique sanguinaire. Je crois que si nous sommes réunis ici aujourd'hui, corps serrés les uns contre les autres, c'est parce qu'il y a en nous cette volonté de résistance, c'est parce qu'il y a en nous cette conviction profonde, viscérale, que l'humanité n'a pas perdu. Nous n'avons pas perdu. Mais soyons lucides, Les mots ne suffisent plus, la compassion ne suffit plus. L'urgence est là, maintenant, chaque minute compte, ils tuent à chaque minute. La France et la communauté internationale doivent agir. Il faut arrêter cette répression, il faut sanctionner ses auteurs, il faut faire tomber ce régime. Nous, Azadi for Iran, collectif de défense des droits humains en Iran, demandons à la France et aux et à l'Union européenne d'inscrire les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. De saisir de toute urgence le Conseil de sécurité des Nations Unies et d'exiger la fin immédiate des tirs sur les civils, la libération de tous les prisonniers politiques.
Bravo !
Un moratoire sur les exécutions, un soutien concret au peuple iranien en protégeant les populations, de mettre à disposition des moyens de communication pour qu'ils puissent communiquer avec l'extérieur et des sanctions ciblées contre les responsables de la répression et non contre la population. Et enfin, d'offrir l'asile politique aux personnes persécutées. Malgré tout cela, je veux finir par l'espoir. Pas un espoir naïf, pas un optimisme aveugle. Un espoir qui demande du courage, de l'abnégation. Nous savons que pour faire tomber la République islamique, nous devons nous unir. Nous n'avons ni le droit de faiblir, ni le droit de désespérer, ni le droit de les abandonner. Nous, nous sommes libres. Et cette liberté nous oblige. Elle nous donne une responsabilité immense, celle de faire entendre leurs cris, celle d'être leur voix. Alors s'il vous plaît, ensemble, crions à tue-tête, femme, vie, liberté !
Femme, vie, liberté !
Femme, vie, liberté !
Femme, vie, liberté !
On peut peut-être périodiser en fait la résistance iranienne depuis l'institution de la République islamique après la révolution de 1979. Il y a une première décennie qui sont des années de guerre contre l'Irak et de terreur à l'intérieur, donc avec des grands massacres de tous les opposants, des purges, un quadrillage extrêmement strict de la société par les comités qui aujourd'hui ont disparu, par les milices du Basij qui sont encore là et qui se comptent en plusieurs centaines, voire millions de personnes, sous l'autorité directe des gardiens de la Révolution, qui sont encore une fois une armée parallèle de renseignements, de police, de sécurité et militaires. Et donc, à partir des années 90, quand la guerre est finie avec l'Irak, quand la société iranienne entre dans une phase de reconstruction et de normalisation sur la scène internationale après la chute du mur de Berlin, et à l'intérieur, les Iraniens vont demander, la société civile va demander plus de liberté, des réformes, des formes d'assouplissement, notamment une égalité de droits pour les femmes, par exemple à travers un mouvement féministe qui se met en place. Mais cette demande va rester largement réformiste dans sa constitution. Donc il ne s'agit pas de remettre en cause la République islamique, mais de demander sa transformation. Et ce mouvement-là continue jusqu'en 2009 avec un candidat réformiste, Nir Hossein Mousavi, qui est porteur d'énormes espoirs de changement. Son élection... il ne va pas gagner les élections présidentielles et c'est Mahmoud Ahmadinejad, qui est un conservateur issu du rang des gardiens de la Révolution, qui va gagner un second mandat. Les Iraniens descendent massivement dans la rue, donc il y a plusieurs millions de personnes qui descendent dans la rue pour dénoncer ces élections comme étant truquées. Ce mouvement va être massivement réprimé. Après 2009, il y a un mouvement, une réorganisation de cette société civile qui a été très blessée par la répression. Et à partir de l'échec en 2015 des négociations sur le nucléaire, c'est-à-dire qu'il y a une première phase des négociations qui vont aboutir, et puis Donald Trump qui va unilatéralement remettre en cause ces accords durcir le régime de sanctions contre l'Iran, isoler économiquement l'Iran. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas uniquement les régimes de sanctions qui appauvrissent l'économie iranienne et la société iranienne, c'est la façon dont l'État iranien gouverne à travers le régime des sanctions, en utilisant ces sanctions économiques pour enrichir une partie de ses élites au détriment de la majeure partie de la population. Et donc le pacte de redistribution entre guillemets de la manne pétrolière qui existait au cours des années 80 et 90 est radicalement remis en cause à partir du milieu des années 2010 avec un décrochage des élites de plus en plus riches et de plus en plus, disons, séparées du reste de la population et une classe moyenne qui s'appauvrit, qui se paupérise de plus en plus et aussi des classes populaires à travers le fait que, par exemple, les taux d'accès à l'université, à l'enseignement supérieur en Iran sont les mêmes que ceux des pays européens, comme la Pologne. Les taux d'accès à Internet, de pénétration digitale, comme dit l'ONU, en Iran sont les mêmes qu'un pays comme l'Islande. Donc on a une société extrêmement connectée, une société très éduquée, avec l'idée que aussi les valeurs des classes populaires rejoignent celles des classes moyennes elles-mêmes paupérisées. Et ce que cela va donner, ce sont des révoltes issues des classes populaires à partir de 2017 et puis en 2019, qui vont être beaucoup plus radicales, qui ne vont plus demander uniquement des réformes, mais vraiment un changement de pouvoir. Donc c'est là que le slogan « Abat la dictature » devient majoritaire ou, on va dire, hégémonique dans les révoltes.
Et maintenant, on va entendre nos amis du collectif Roja et c'est Somaye qui va prendre la parole. Somaye qui n'est pas juste une militante féministe, mais qui est aussi kurde. Nous sommes remplis de rage, de colère, de tristesse. Pleine des inquiétudes, de deuil collectif pour des milliers de personnes qui ont été abattues de manière cruelle, simplement parce qu'ils ont protesté pour survivre et vivre comme les humains. Nos corps sont lourds pour nos proches, privés de leur voix à cause de la coupure totale d'Internet. Ce voix précieux qui rendait l'exil supportable pour nous. En Iran, un massacre sans précédent a eu lieu pendant le soulèvement récent. Les opprimés, les chômeurs, les étudiants et les commerçants, de Téhéran aux petites villes des zones périphériques, de Ilam à Gilan, se sont levés contre le régime et ont fait grandir le soulèvement dans une grande partie du pays. Par peur de sa chute, le régime avoue sa seule issue dans nos massacres de peuples, des peuples, avec des arrestations massives, la privatisation de soins pour les blessés, les menaces d'exécution sous l'accusation de terrorisme et même l'extorsion d'argent pour rendre le corps. De l'Orestan à Qom, de Téhéran aux autres villes, Les images des violences de l'État sont terrifiantes, sont horribles. Les cadavres entassés des jeunes et des manifestants sans armes à Kahrizek. Le bruit constant des balles de guerre dans la rue. Les vidéos de manifestants tués pendant qu'ils filment les révoltés. Quelle erreur! En tout cela, dans le silence, dans la coupure totale d'Internet, qui est un sort de punition collective, pour les gens à l'intérieur, mais aussi pour nous, les gens de la diaspora depuis ici. Les gens rappellent ce gouvernement à juste titre et les appellent la république d'exécution, la république de massacre. Car ce régime se nourrit du sang de peuple. Depuis des décennies, il survit grâce à la répression des femmes, des personnes cuir, au massacre des minorités nationales et ethniques, les Kurdes, les Balouches, les Azaris, les Arabes et des autres. Et les leurs qui sont, du coup, le pionnier de ce mouvement récent. Aujourd'hui, le régime répète un autre massacre, comme celui qu'il a fait au début de la révolution, avec le djihad contre Kurdistan et Turkmenistan, avec le massacre massif des milliers de militants en prison, avec des procès de 5 minutes dans les années 80. Les camarades, la grande leçon de ces années 80 est aujourd'hui devant nous. Il faut créer un grand front uni, un bloc puissant pour résister aux tyrannies, qu'ils soient menés par les mollahs ou les monarchies. C'est notre mission aujourd'hui au sein de Roja, quand on va avancer avec nos camarades qui étaient à côté de nous depuis 3 ans, les camarades syndicalistes, féministes,
les camarades internationalistes et plus particulièrement aujourd'hui MPA et Solidaires qui nous ont beaucoup aidés. À ceux qui doutent de la légitimité de soulèvement, nous rappelons clairement, ce cri vient des peuples épuisés et désespérés et non d'un complot extérieur. Ces gens décident de leur propre avenir et n'ont pas besoin des pères. Notre message au monde est clair. Soutenez les peuples en Iran, mais pas avec les bombes et les sanctions. Nous avons besoin de solidarité mondiale et internationale pour briser le silence, pour arrêter les massacres, pour soutenir l'organisation populaire et défendre le droit d'autodétermination des peuples en Iran dans toute leur diversité, à choisir leur destin sans guide imposé de l'étranger ni regime change. En tant que diaspora iranienne, nous allons continuer de soutenir la résistance d'insurgés en Iran, mais aussi dans la région du Moyen-Orient, de Kurdistan au Baloutchistan, de l'Afghanistan à la Palestine. Ces peuples ont leur destin dans leurs mains et peuvent construire leur avenir eux-mêmes. Notre slogan reste Jeune Jian Azadi. Notre slogan reste Jeune Jian Azadi. Ce slogan a montré qu'il est possible de créer une révolution féministe, radicale, décoloniale, pour l'égalité et la démocratie, sans avoir besoin d'une intervention impérialiste qui, en réalité, vise à détruire cette révolution populaire. Toute forme d'intervention étrangère est condamnée, surtout celle de Trump et du régime génocidaire israélien qui ont imposé leur ambition géopolitique sur le dos des peuples en Iran. Ces interventions n'ont que fait augmenter la force de l'extrême droite iranien et faciliter la répression et les exécutions des peuples par le régime. Nous sommes conscients des tentatives de récupération des luttes légitimes des peuples en Iran et nous défendons sans hésitation la troisième voie. C'est pourquoi nous répétons le slogan des jeunes de pays qui l'ont écrit plusieurs fois dans plusieurs villes, sur les murs, pendant le soulèvement de Jina, mais aussi aujourd'hui aussi dans la révolte récente. La sultanat de Rahbari, Azadi au Barabari, pas de guide, pas de monarque, liberté, égalité. C'est ce slogan autour duquel s'est assemblé ce bloc aujourd'hui. Nous ne lâcherons pas cette demande. Arrêtez les massacres des peuples en Iran et jusqu'à la chute du régime. Nous crions depuis la diaspora partout. Jeune Jian Azadi, Jina est le symbole de notre révolution. Qui vivra, qui vaincra? Vive la résistance des peuples en Iran. C'est le débat de mon gouvernement et madame d'Iran. Béji, Berkhodan, Oura, Parini, Galani, Iran.
Le soulèvement Femmes, Vie, Liberté en 2022-23 est à la fois une continuation de ces vagues de soulèvements qui alternent avec des vagues de grèves très massives. Grève des enseignants, grève des infirmiers, grève des chauffeurs de bus, grève des ouvriers. Et donc on a également une société civile qui s'organise pour résister de multiples façons, à chaque fois avec des demandes qui deviennent de plus en plus radicales. Et c'est le cas du mouvement féministe qui ne va plus demander un changement des lois, une égalité femmes-hommes à l'intérieur du cadre théocratique, mais qui va utiliser le voile comme son langage de révolte pour dire maintenant, nous ne voulons plus de la République islamique. Et le soulèvement Femmes, Vie, Liberté va être un moment où les différentes franges de la population qui se sont soulevées à différents moments vont se réunir des manifestations où les gens vont apprendre à manifester et à s'organiser ensemble. Et c'est ce qu'on voit également depuis 15 jours. Ce sont des manifestations qui ont commencé avec le bazar, avec donc des acteurs économiques plutôt conservateurs, qui étaient par exemple la colonne vertébrale de la révolution islamique en 1979. Ces acteurs économiques du bazar qui en ont marre
vont être relayés également par les universités et puis par l'ensemble de la population qui descend dans la rue. Ce sont des révoltes qui sont relativement transgénérationnelles, qui ont lieu le soir. Donc c'est le soir que les gens descendent, tout comme c'était le cas en 2019 et en 2022-23. Et donc on a des formes de savoir-faire, des formes d'organisation, des slogans qui, d'une révolte à l'autre, depuis une décennie désormais, puisque c'est depuis 2017, marquent la même volonté de renversement du pouvoir face à des élites sécuritaire, extrêmement organisé et qui contrôle en fait à la fois l'économie et à la fois tout le réseau de surveillance biométrique et de mise sous coupe réglée sécuritaire et militaire de la population iranienne.
Je m'appelle Shirin Ardakhani. Je suis avocate, militante des droits humains et je suis présidente de l'association Iran Justice. Nous sommes plongés dans la pénombre, sans liaison avec le monde, mais nous nous tenons là, debout. C'est le SOS des Iraniens et des Iraniennes en lutte contre les forces de destruction et de terreur qui se livre encore à cette heure et depuis le premier jour à une guerre impitoyable contre le peuple. Sous le vacarme des détonations depuis la prison politique où s'entassent les justes, un autre appel, celui des 39, de l'avocat Javad Ali Kordi, mais aussi du quartier des femmes en résistance pour Anna Zemi, Asti Amiri, Sepi Degolion, Fatemeh Seperi, Nargas Mohammadi. Elles ont dit, ils nous ont arrêtés et battus. Dites au monde ce qui se passe ici. Ce qu'il se passe là-bas, ce sont les charniers, les corps amoncelés dans les conteneurs, les aveux forcés à la télévision, la confiscation des dépouilles, l'extorsion en bande organisée, celui de la République islamique d'Iran et de ses sbires, les miliciens. Ils mitraillent les civils, ils brûlent les bazars, ils défilent sur leurs chars et condamnent Dieu, condamnent la potence au nom de Dieu. Dieu est leur alibi. Le pouvoir, ils le veulent surtout pour eux et pour eux-mêmes. Et leur loi, c'est celle du sang. La lutte des Iraniens et des Iraniennes pour la démocratie, laïque, égalitaire, sociale, contre le parti clérical, militarisé et misogyne, et ses lois de domination sur les femmes d'abord et toujours, sur les minorités de genre, les groupes ethniques et confessionnels. Et je suis heureuse d'être ici avec nos amis, les Kurdes, les Azeris, les Baloutches et de tous les peuples, parce que nous sommes ensemble, frères et sœurs. L'histoire des Iraniens est une histoire qui se répète depuis des siècles et avec elle, la malédiction. Les balles du dictateur ou les bombes des profiteurs, les peuples du Moyen-Orient n'ont-ils pas le droit à autre chose que de mourir? À celles et ceux qui répètent partout, Oncle Sam arrive pour vous délivrer. Mais nous ne nous sommes ni naïfs, ni aveugles de cet uniforme, de ces drones et de ces tanks. Il roule pour un parti, c'est celui de l'extrême droite mondiale. Ils servent ceux qui pillent les espérances légitimes des peuples et leur noir. Elle n'est nulle part l'alliée des peuples et de cela, nous n'attendons rien. Mais je veux dire aussi un mot à certains qui parfois, par négationnisme complotiste, noyés dans leurs dogmes, embrassent en pantin servile la propagande de nos bourreaux iraniens, russes et chinois. Nous ne sommes pas dans le même camp. Et puis, pour détourner le regard de la juste cause des Iraniens en lutte, il y a ceux qui vantent ici, à Paris, la République, mais
pour ailleurs et pour les autres, la monarchie. À cela, je veux dire, il repose ici un républicain qui s'est battu jadis contre le parti clérical d'abord et contre les empereurs ensuite. Nous, les Iraniens, nous avons lu ces vers, Hugo le poète, mais nous avons vécu cela. Et nous nous disons et nous reprenons sa poésie, ni prêtre, ni César. Aussi, je voudrais dire ceci à ceux qui nous font des leçons sur la lutte contre l'islamisme. Mais nous sommes ceux qui ont fui l'islamisme. L'islamisme, nous l'avons combattu, nous l'avons fui, et ceux de nos aînés qui sont là parmi nous portent encore sur leur corps supplicié les marques de leurs bourreaux, de la prison politique qui démolle là, et nous n'avons pas de leçons à recevoir. Enfin, parce que c'est cela qui compte, à ceux qui, en ce moment, comptent leur mort, aux Iraniens, nous voulons dire ceci. Vous êtes nos compatriotes. Vous êtes abandonnés dans le concert des nations. Vous appelez désespérément à l'aide. Vous voulez des alliés sincères. Vous les trouverez nombreux dans le monde. Et vous en trouverez quelques-uns, ici, modestement dans nos rangs. Ce sont ceux de la société civile mondiale. Elle est organisée, elle est solidaire. Et nous, nous vous voyons de toutes nos forces. Nous amplifierons vos voix pour faire plier ici nos dirigeants. Ils vous doivent respect, secours et assistance. Nous, c'est qui? Les militantes féministes, les militants des droits humains, les étudiants, les syndicalistes, les élus, les citoyens. Nous plaçons nos espoirs dans le droit et la justice. La Charte des Nations Unies n'est pas un frein, c'est un progrès de l'humanité et nous la revendiquons même si nous serons les derniers. L'interdiction du recours à la force, le droit de protéger face aux crimes, poursuivre et juger les bourreaux, c'est tout cela qu'il faut défendre, mais surtout, il faut le faire appliquer. Nous croyons, et je termine bientôt, nous croyons comme vous en la force transformatrice du mouvement des femmes. Elles ont la mémoire dure. En 79, et il y a des amis ici parmi nous que je salue et qui se reconnaîtront, dès le 8 mars 79, elles avaient averti « Khomeini n'est pas celui que vous croyez, mais comme toujours, il y a des hommes qui savent mieux et qui ont dit aux femmes « Taisez-vous et laissez faire les professionnels. » Et la suite, on la connaît. Nous promettons de relayer partout, sans fétiche ni icône, la devise qui nous a amenés jusqu'à nous, née d'un féminicide, du meurtre de Gina, une femme qui a refusé de se soumettre à une loi injuste qui enferme les femmes. Et notre outil, c'est celui que les Iraniens ont choisi, celui de la désobéissance pacifique. Alors, bien sûr, nous sommes raillés, nous sommes moqués par les cyniques, mais regardez la loi des brutes, elle est partout à l'œuvre. Qu'est-ce qu'elle apporte à l'humanité, sinon souffrance, chaos et tyrannie? Cette loi, nous la refusons. Alors, l'année qui arrive sera celle pour les Iraniens de tous les deuils. Mais ce sera aussi celle de tous les possibles. De la révolution, nous le croyons, nous en sommes certains. Dans les rues de Téhéran, de Zaïdon, l'espoir jaillit. Car après la pluie, le temps est beau. Aussi, pour Nowruz, notre printemps à venir. Je vous le souhaite à vous, digne peuple d'Iran. Et à nous aussi. Je souhaite la liberté, l'amour, de vaincre le fascisme sous toutes ses formes. Gloire aux femmes qui luttent, au peuple qui résiste, à nos justes révoltes, nous vaincrons.
Et vous êtes de retour dans l'actualité des luttes, et ce jusqu'à 13h30 sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Pour cette deuxième partie d'émission, nous revenons donc sur la situation au Rojava. En effet, depuis le 4 janvier 2026, une guerre totale est menée contre l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie, aussi connue sous le nom de Rojava. L'organisation djihadiste HTS, qui a pris le pouvoir il y a un an à Damas, suite au renversement du régime d'Assad, a pris récemment le contrôle de larges territoires et continue sans interruption ses attaques contre le reste de l'administration autonome, malgré un accord de cessez-le-feu qui, dans les faits, n'a jamais été mis en pratique. Ces attaques se sont renforcées donc en ce début d'année 2026, et en solidarité avec les forces sur place, des rassemblements ont été appelés cette semaine. Vous entendrez donc tout de suite un interview réalisé lors du rassemblement appelé le 20 janvier 2026 à Paris, puis une partie des prises de parole qui ont eu lieu lors de la manifestation appelée samedi dernier, 24 janvier 2026, sur la place de la Bastille à Paris. Bonne écoute.
Donc nous sommes le 20 janvier 2025 et nous sommes aux Invalides, là, tout près du ministère des Affaires étrangères, où un rassemblement, après un rassemblement nocturne hier soir, place de la République, ils se sont donné rendez-vous donc ce soir un peu plus tôt, à 18h, sur l'esplanade des Invalides. Et je suis avec l'un des représentants de la communauté kurde qui va nous expliquer un peu ce qui se passe depuis une semaine au Rojava, au Rojalat et à Alep.
Bonsoir, je me présente, c'est Emo Sever, je suis l'un des porte-parole de CDKF. Et pour expliquer notre rassemblement ici, c'est dû aux attaques de Jolani envers la communauté kurde, la population kurde de Rojava, et aussi au non-engagement de l'État des États occidentaux ainsi que l'Amérique. Donc du coup, la communauté kurde aujourd'hui, elle est rassemblée à la place de Bourgogne, juste à côté du palais Bourgogne, pour crier leurs désaccords, leurs désaveux. Aujourd'hui, nous ressentons que nous sommes relâchés entièrement par la France, abandonnés par la France. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ça fait depuis 2010, depuis la révolution du Rojava a commencé, la diaspora kurde en Europe, partout dans le monde, la communauté kurde, elle a été omniprésente aux côtés de tout le monde. Nous avons effectuer une guerre, pas que pour les Kurdes, nous avons effectué cette guerre-là pour tout le monde. Et aujourd'hui, comme M. Barak, l'ambassadeur américain de Turquie et de Syrie, a déclaré récemment en disant qu'aujourd'hui, qu'ils n'avaient plus besoin du FDS, en insinuant qu'ils avaient déjà leur accord avec Jolani, et que cet accord-là leur suffisait amplement et qu'ils n'avaient pas besoin de... Ils n'avaient pas besoin du FDS pour pouvoir contrer Daesh. Donc cette situation, cette communication, cette façon de communiquer, cette façon de traiter les Kurdes est totalement rejetée et pas inacceptable de la part de la diaspora kurde en France et ailleurs aussi. Et de ce fait-là, je pense que les Kurdes d'Europe, tant que n'ont pas réussi à faire entendre leur voix, tant que la communauté, la diaspora kurde n'a pas fait savoir de ce qu'on veut, de ce qu'on souhaite au Rojava, on ne relâchera pas. On sera tous les jours dans les rues, tout le temps dans les rues, sans relâche, sans hésitation, sans crainte.
Mais les négociations qui avaient lieu entre les FDS et Jolani, donc anciennement d'HTS, la branche syrienne, l'une des branches syriennes d'Al-Qaïda, ont-elles capoté? On en est où?
En fait, ces négociations-là, on ne peut même pas appeler ça des négociations, c'est des impositions appliquées, écrites par Ankara, et ils veulent que la Syrie de Jolani, de HTS justement, nous impose leurs idéologies, leur façon de faire, et nous fasse croire, nous fasse accepter de ne rien demander, de s'accorder à leur façon de régner, à leur façon d'instaurer leur institution qui est totalement rejetée par nous. Il faut savoir que la communauté kurde elle est démocrate, elle est civilisée, elle est totalement en accord avec tous les droits de l'humanité. Aujourd'hui, comment voulez déjà vous, nous percevons les questions, nous acceptons les questions, comment voulez-vous accepter les droits de la femme qui est instaurée par, par ce gouvernement qui est radicalisé? Et surtout, elle est terrorisante, en fait. Aujourd'hui, on l'a très bien vu à travers des ruses au Soueïda. On a vu à travers des Nassouris, des Alaouites, à l'Attaqué et à Tarsus. Nous avons vu qu'ils ont créé des génocides sans gêne. Donc du coup, aujourd'hui, dire aux Kurdes, laissez vos armes, c'est rendre notre âme, en fait. En fait, on va rendre notre vie. La preuve, on est à Alep, ailleurs. Quand ils attaquent les Kurdes, ils n'hésitent pas. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos qui circulaient envers nos camarades. Ils n'ont pas hésité d'égorger encore une fois. Vous vous rendez compte, on égorge des gens. Vous pouvez mener une guerre, raison ou pas raison, vous avez tort ou pas tort, mais vous ne pouvez pas égorger des gens. Vous vous rendez compte, on parle de cette idéologie-là, on parle de cette institution-là. Et ça, il est hors de question que nous nous rendons à eux.
Quel a été le déclencheur des événements à Alep?
En fait, il y a des pourparlers, justement, ce qu'on parlait. Il y a des pourparlers, il y a des avancées par rapport à ça. Il y a des promesses qui sont données et que nous acceptons au fur et à mesure. Mais il y a des agendas à respecter, il y a des moments à respecter. Mais avant de même attendre les dates exécutives, ils attaquent directement, ils rentrent directement. Avant que même notre communauté, notre population soit prête, ils attaquent directement nos institutions, nos camarades. Donc de ce fait-là, c'est pas acceptable. Aujourd'hui, nous sommes décidés, nous sommes désignés. Il est hors de question que nous rebattons en arrière. On fera la guerre jusqu'au dernier, la dernière personne, le dernier Kurde sur Terre. Il est hors de question, on abandonne jamais.
Les autres communautés minoritaires de Syrie, les Alaouis, justement, les Alevis, etc., est-ce qu'ils vous soutiennent? Où est-ce qu'on en est?
Ben, en fait, il faut savoir que les minorités Alaouites, Druzes, Assyriaques, Arméniennes, et des Arabes qui sont dans les villes Asaké et Kamishlo, ils nous soutiennent totalement, amplement. Ils sont totalement avec nous. Ils ne sont pas du tout contre ça. Mais par contre, il faut savoir qu'il y a des tribus. Il y a des tribus extrêmement sectaires, extrêmement féodales, qui sont basés à Deir ez-Zor, qui sont basés à Raqqa. C'est pour ça que nos camarades, ils ont eu du mal à contrôler réellement ces endroits-là, parce que ces gens-là, ils sont totalement sectaires, c'est des tribus. On ne peut pas parler des origines ou autres, on parle encore plus bas, on parle des tribus. Ces tribus-là, ils n'acceptent rien, ils n'acceptent aucun signe de démocratie, aucun signe de vivre ensemble.
Oui, parce que la communauté arabe avec qui vous avez combattu Daesh, donc qui sont dans les FDS, parce que dans les FDS, il n'y a pas que les Kurdes, eux sont totalement à vos côtés.
En vérité, justement, c'est très ambigu, en vérité. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Arabes qui sont séculaires, on va dire, les Arabes séculaires, les
Arabes laïcs.
Eux ils sont pour nous, ils sont de notre côté, ils sont rangés de notre côté. Mais il faut savoir qu'il y a des tribus qui sont à Deir ez-Zor, il y a des tribus qui sont à Raqqa. Eux, ils étaient là juste par imposition des Américains. Ils étaient dans nos rangs. Il faut savoir qu'il ne faut pas confondre les Arabes et les tribus de Deir ez-Zor. Ces mêmes tribus-là, la première fois que Daesh, quand il a envahi Deir ez-Zor, ils ont directement fait un accord avec eux, ils sont rangés de leur côté. Et juste après, quand Al-Nusra a attaqué Daesh, quand il a pris de l'ampleur, ils sont juste après rangés du côté Al-Nusra. Par la suite, comme nous, FDS, nous avons eu cette force-là, ils sont rangés de notre côté. En 2019-2020, quand Bachar al-Assad a pris plus d'ampleur, ils étaient à deux doigts de se mettre de côté Bachar al-Assad, d'où les Américains ont intervenu. S'ils n'auraient pas intervenu, ça aurait encore débordé, en vérité. Donc du coup, c'est des vrais opportunistes. Après, il ne faut pas confondre avec les Arabes et les tribus de Deir ez-Zor, etc.
Alors, il y a beaucoup de CRS, du coup. Donc, il y a beaucoup de tensions.
Non, mais ça va déborder. Ça va déborder.
sur les coups de 19h. La pression est montée d'un cran. Les CRS en tenue de combat, entre guillemets, avaient coupé une partie de la circulation à l'entrée du métro. Et vers 19h30, 19h45, on commençait à charger sans raison apparente le petit millier de manifestants qui étaient présents, et au moins une arrestation a été faite. Il y a également des blessés. Il faut savoir que l'actuel président de la Syrie, Al-Shara, est un ancien d'Al-Qaïda et un ancien de Daesh, et que la principale force gouvernementale sont des anciens de HTS, donc des anciens islamistes. Des négociations avaient lieu. Dans un premier temps, les négociations avançaient et sûrement... avec l'aide et à l'appel de la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, se sont brusquement arrêtés et sont passés à l'offensive. Actuellement, Kobané est sous le feu de l'armée turque, et d'autres cantons du Rojava sont sous le feu turc, sachant que de l'autre côté de la frontière iranienne, le Rojalat, c'est-à-dire l'est du Kurdistan, est lui aussi en proie à la répression étatique, mais cette fois-ci de la répression des Mollahs chiites.
Rojava représente pourtant un espoir populaire, démocratique, social, fondé sur la participation des habitants, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, la coexistence des peuples et de cultures et de formes de coopération opposées au capitalisme prédateur et à l'exploitation. Rojava doit être sécurisé et non pas écrasé. Et pendant que Rojava est attaqué, ici, en Europe, la solidarité avec le peuple kurde est trop souvent entravée. Des manifestants ont été interpellés, des manifestants ont été blessés, intimidés. Ces faits rappellent que défendre la liberté des droits du peuple kurde comporte des risques. On n'oublie pas les militantes et les militantes kurdes qui ont été assassinées à Paris par leur engagement. Sakin Gaziz, Filan Dugan, Leila Solemez en 2013, Emin Kara et ses camarades en 2022. La vérité et la justice leur sont toujours dues. Et je le dis clairement, la France et l'Union européenne doivent agir pour la désescalade, la protection des civils et une solution politique durable. Elles doivent cesser toute complaisance à l'égard des politiques de guerre et œuvrer à la reconnaissance des droits du peuple turc et du respect du droit international et de la souveraineté des peuples. Il n'y aura pas de paix sans droit. Il n'y aura pas de paix sans souveraineté des peuples. Il n'y aura pas de paix durable dans un système dominé par le capital et la guerre. Je le dis, le peuple kurde doit être protégé. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit rapidement se réunir pour protéger le peuple kurde. Solidarité au peuple kurde. Rojava n'est pas seul. Né Beksmedi, yeah. Soumia Bouroua.
Chef Kerhot. Hélène Pidor, Parti communiste français. Maintenant, je voudrais donner la parole à une jeune femme qui fait des longs voyages rien que pour parler au nom de France Kurdistan, qui est elle-même à moitié kurde. Roseline, pour France Kurdistan, s'il vous plaît, Cheb Kerhot.
Depuis le 6 janvier, la situation du Rojava connaît une dégradation rapide et alarmante. Après des années de résistance face à l'État islamique, de sacrifices humains et d'efforts pour construire une administration autonome fondée sur la coexistence des peuples. L'égalité femmes-hommes est une forme de gouvernance démocratique locale. Le Rojava est aujourd'hui menacé de son existence même. La situation des Kurdes est particulièrement préoccupante par les risques immédiats de massacres de civils, d'épuration politique et ethnique et de destruction méthodique des acquis sociaux et démocratiques construits au Rojava. Les femmes qui ont été au cœur de ce projet politique et social sont aujourd'hui parmi les premières cibles. Ce qui se déroule sous nos yeux évoque tragiquement les trop nombreux crimes contre l'humanité commis contre Daesh. Réduction des femmes en esclavage, répression brutale, enlèvement, élimination de toute voix dissidente. À la suite d'offensives militaires et d'accords signés sous contrainte, des forces djihadistes liées au nouveau pouvoir autoproclamé de Damas ont pris le contrôle de territoires auparavant administrés par l'administration autonome du nord-est de la Syrie. Nous rappelons que le peuple kurde a payé un tribut immense dans la lutte contre l'État islamique, protégeant non seulement la Syrie, mais aussi la communauté internationale, y compris la France. Voir aujourd'hui émerger, sous couvert de stabilisation, des forces djihadistes imprégnées de cette idéologie criminelle constitue une trahison grave et un danger majeur pour toute la région. Malgré les efforts des Kurdes pour parvenir à un accord avec le gouvernement, le prétendu cessez-le-feu a déjà été réduit à néant par l'envoi de milliers de forces spéciales turques et djihadistes, donc l'objectif déclaré est le massacre du peuple kurde. Comme toujours, ce sont les civils qui servent de chair à canon. Des familles entières sont une nouvelle fois arrachées à leurs terres, déplacées de force, jetées sur les routes de l'exil. Beaucoup d'entre elles avaient déjà tout perdu lorsqu'elles avaient fui la région d'Afrin lors de l'invasion turque de 2018. Aujourd'hui encore, les Kurdes sont déracinés, pourchassés, traqués. La Turquie et les groupes djihadistes qu'elle arme affichent ouvertement leur volonté d'exterminer le peuple kurde là où il se trouve. À l'issue d'une réunion organisée à Paris entre la Turquie, la Syrie et Israël sous l'égide des États-Unis, Ankara et Damas ont convenu de lancer une nouvelle phase d'offensive contre les territoires kurdes. Face à cette décision, la communauté internationale est restée passive, autorisant de facto le massacre des Kurdes. Cette décision s'inscrit dans la volonté poursuivie depuis des années par Erdogan d'éradiquer toute forme d'existence politique kurde. Une fois encore, les Kurdes qui ont été en première ligne dans la lutte contre Daesh sont utilisés comme instrument, puis abandonnés par ceux qui se présentaient comme leurs alliés. Nous exigeons la protection immédiate des populations civiles qui, nous le disons, aujourd'hui souffrent. Kobané est sans électricité, Kobané est coupée d'internet, Kobané est sous la neige. Nous exigeons le respect du droit international humanitaire et appelons à des garanties concrètes pour les droits politiques, culturels et sociaux des Kurdes et des autres minorités. Les crimes de guerre ne peuvent rester impunis. La communauté internationale doit intervenir sans délai pour traduire en justice les responsables, qu'il s'agit du gouvernement syrien, du gouvernement turc et leurs milices djihadistes. France Kurdistan se tient pleinement aux côtés du peuple kurde, dont le courage et la résistance sont un exemple d'abnégation et d'humanité. Biji Berhwadan Ororov Java.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.